Il y a 15 jours, nous avons commencé une mini-série sur Gédéon, le personnage central du livre des Juges. Et nous avons tout d'abord considéré le livre dans son ensemble, et puis nous nous sommes arrêtés sur le contexte du récit de Gédéon, à savoir l'oppression intense d'Israël par un peuple venant de l'Est, les Madianites. Et ce matin, nous allons méditer ce que l'on pourrait appeler l'appel de Gédéon, c'est-à-dire le moment et la manière par laquelle Dieu va lui faire comprendre sa volonté et va l'appeler à être le libérateur de son peuple. Il y aura un deuxième volet à ce chapitre de l'appel de Gédéon. Avant d'entrer dans le texte de ce matin, j'aimerais rapidement rappeler une ou deux choses qui ont été dites il y a 15 jours. Et je commence par vous poser la question, est-ce que vous vous souvenez de ce cycle répétitif et de ces cinq phases avec le mémotechnique de la lettre R qui commence chaque mot? Est-ce que quelqu'un se souvient dans l'ordre de ces cinq phases? Alors, c'est déjà pas mal. Voilà, je vous donne la suite. Rédemption et repos. Merci. Voilà, rébellion, rétribution, repentance, rédemption et repos. Ce cycle, effectivement, sur lequel est construit le livre des Juges, en tout cas en grande partie, si on enlève les introductions et les conclusions, un cycle qui non seulement se répète, mais qui va aussi s'accentuer au fur et à mesure des différents juges. Le peuple se détourne de Dieu, c'est la première phase, la rébellion. Dieu les livre à leurs ennemis comme il l'avait annoncé, si jamais ils se détournaient de lui, c'est la rétribution. Le peuple, au bout d'un moment, crie à Dieu, se tourne à nouveau vers Dieu, R comme repentance, et puis Dieu entend tout d'abord et envoie un juge pour libérer son peuple, c'est la rédemption, et puis le peuple vit à nouveau dans la paix, c'est le repos. Et puis malheureusement ça recommence, et c'est comme ça tout au long du livre des Juges. Nous avons vu au début du chapitre 6 du livre des Juges comment ce cycle se met en place dans le récit de Gédéon. À l'époque de Gédéon, le peuple s'est à nouveau détourné de Dieu. Et Dieu, selon sa parole, les livre à leurs ennemis. Il les livre aux mains de Madian. Et c'est ainsi que ces Madianites qui traversent le Jourdain, qui viennent de l'Est, vont déferler sur Israël pendant 7 années. 7 années pendant lesquelles ils ravagent le pays et cela amène le peuple dans une grande détresse. Une grande détresse qui va les pousser à se tourner à nouveau vers Dieu. Et c'est là que nous faisons la connexion avec le texte de ce matin que j'aimerais maintenant lire avec vous. Nous sommes donc dans le livre des Juges au chapitre 6 et je vais lire les versets 6 à 14. Je vais les lire, est-ce qu'ils vont s'afficher? Pas pour l'instant, on va attendre, voilà. Juges chapitre 6, je commence au verset 6. Israël fut très affaibli par Madian, et les Israélites crièrent vers le Seigneur. Lorsque les Israélites crièrent vers le Seigneur au sujet de Madian, le Seigneur envoya un prophète aux Israélites. Il leur dit, « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison des esclaves. » Non, ce matin, ça sera dur jusqu'au bout. Ou alors vous arrivez à le passer manuellement. Voilà, on continue au verset 9. « Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous vos oppresseurs, Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis le Seigneur, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. Verset 11. Puis le messager du Seigneur vint s'asseoir sous le térébin d'Ophra, qui appartenait à Joas l'Abiezrite. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Le messager du Seigneur lui apparut et lui dit, « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon lui dit, « Pardon, mon Seigneur, mais si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ? Où sont tous ces actes étonnants que nos pères nous racontent quand ils disent « Le Seigneur ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte ? » Maintenant, le Seigneur nous a délaissés. Il nous a livrés à Madian. Le Seigneur se tourna vers lui et lui dit « Va avec cette force que tu as. Tu sauveras Israël de la main de Madian. » N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Israël est donc dans la détresse. Le peuple de Dieu crie à Dieu au sujet de Madian. Et que fait Dieu ? Il suscite, avant de susciter un juge, il suscite un prophète. C'est notre deuxième point après notre introduction. Et nous entrons ici dans la quatrième phase de ce cycle répétitif, c'est le début de la rédemption. Dieu suscite donc un prophète qui vient pour délivrer un message plutôt inattendu de la part de Dieu. Dieu ne dit pas par la bouche de son prophète, par exemple, « Je vous ai entendu et je vais vous libérer par la main d'un juge ». Il aurait pu dire ça. Ou alors, vous avez vraiment dépassé la limite et je vais encore vous laisser mariner un peu avant de vous délivrer. Ou encore, votre repentance laisse à désirer. Je vais encore un peu serrer la vis jusqu'à ce que vous capituliez vraiment. Rien de tout ça. Que fait le prophète ? Le prophète se contente de faire des rappels. Et il va rappeler trois choses qui vont apparaître en jaune sur le texte. Qui devraient apparaître en jaune sur le texte. Voilà. Premièrement, il rappelle ce que Dieu a fait pour son peuple en Égypte. C'est-à-dire la grande délivrance de l'esclavage. Ça, c'est le premier rappel. Puis le deuxième rappel... Non ? Ah, ben si, voilà, je suis allé trop vite, désolé. Voilà. Le deuxième rappel, c'est que Dieu a clairement manifesté sa volonté en interdisant à Israël toute association avec les dieux, les idoles du pays. Et puis, troisième rappel, il rappelle la désobéissance d'Israël à ce sujet. Pourquoi Dieu agit-il ainsi ? Sans doute pour que le peuple comprenne bien ce qui se passe, ce qui est en train de se passer. Sans doute aussi pour que le peuple puisse véritablement se repentir. En effet, le message du prophète pourrait laisser à penser que ce n'est pas vraiment le cas. C'est donc un peu comme si Dieu renvoyait la balle dans le camp d'Israël par l'intermédiaire de son prophète. Crier à Dieu dans sa détresse est un premier pas. Mais ce n'est pas le seul pas que Dieu attend de nous. Après avoir crié à Dieu, et rappelons-nous que Dieu entend toujours tous nos cris de détresse, après avoir crié à Dieu, il faut choisir, il faut faire le choix de l'obéissance. L'intervention du prophète dans notre passage me laisse à penser que Dieu attend autre chose de son peuple, à savoir une véritable réforme de son cœur, un véritable changement. Et il en va de même pour nous, pour chacun de nous. Parfois, nous crions à Dieu et Dieu intervient dans notre détresse. Nous pouvons penser ici à ce beau verset, par exemple, du psaume 34, qui dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Mais ce que Dieu désire par-dessus tout, ce n'est pas que notre relation à lui se résume à des appels d'urgence, comme quand nous appelons le 15, le 17, le 18 ou le 112. Dans la détresse, il y a un moment pour ça. Ce que Dieu désire, ce n'est pas que nous fassions appel à lui uniquement quand nous sommes dans la panade, uniquement quand nous n'y arrivons plus par nous-mêmes. Ce que Dieu désire, ce n'est pas que nous le considérions seulement comme la roue de secours de notre vie. Ce qu'il désire vraiment, c'est être le volant. C'est que nous lui laissions diriger notre vie, que nous lui donnions les clés du camion ou de la voiture. C'est que notre vie soit vécue dans l'obéissance à sa parole. Voilà ce que Dieu désire. Et il est d'ailleurs assez révélateur à ce sujet que la première chose que Dieu va demander à Gédéon après cet appel, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de relire le texte, mais la première chose qu'il lui demande, c'est de détruire l'idole de Baal qui était chez son père, c'est-à-dire chez lui, ainsi que le poteau d'Achéra. Dieu veut bien évidemment nous secourir, mais il veut avant tout notre cœur. Il veut notre consécration, il veut notre obéissance. Passons maintenant à l'appel de Gédéon à proprement parler. C'est la diapo suivante qui arrive. C'est notre troisième point. Après l'intervention du prophète, c'est le messager du Seigneur. On a peut-être plus l'habitude de l'ange de l'Éternel dans les traductions plus anciennes. Ici, c'est le messager du Seigneur qui entre en action en s'approchant de Gédéon. Et commençons par souligner ce que nous apprenons sur Gédéon et ses circonstances du moment dans ce texte. C'est notre premier sous-point. Gédéon, fils de Joas, nous ne connaissons pas son âge, est en train de battre du froment pour le mettre à l'abri de Madian. Et le lieu du battage est insolite, puisqu'il est fait mention d'un pressoir. Généralement, on battait le froment dans un grand espace, à l'air libre, en plein air, au vent, pour que le vent disperse facilement la paille. Et le faire dans un pressoir, qui était certainement une sorte de cuve taillée dans le rocher pour fouler le raisin, n'était pas adapté et signifie au moins deux choses. Premièrement, que la quantité de froment est minime, est toute petite. La récolte n'a pas été bonne, ou alors les Madianites sont déjà passés et voilà ce qui reste. Ou alors, par anticipation, voilà ce qu'il a réussi à soustraire de la prochaine invasion. Et puis deuxièmement, ce que nous fait comprendre ce lieu insolite, c'est que le battage se fait en cachette et que Gédéon est certainement dans la crainte à ce moment-là. Gédéon est en train d'essayer de sauver ce qu'il peut, peut-être le peu qu'il reste. Comme nous l'avons dit, peut-être c'est ce qu'il a réussi à soustraire de la prochaine récolte, peut-être c'est ce qu'il a réussi à sauver au moment de l'invasion de la dernière invasion des Madianites. Cette scène, en association avec ce que nous savons de la situation catastrophique du peuple, nous fait prendre un peu plus la mesure du tragique de la situation dans laquelle se trouve Gédéon et dans laquelle se trouve le peuple, et quelque chose de son désarroi. Gédéon qui n'a pas d'autre choix que de se cacher pour survivre, pour littéralement arriver à mettre quelques grains de côté. Le peuple de Dieu est véritablement dans une situation désespérée. Et les jeunes diraient aujourd'hui de façon très imagée, il est au bout de sa vie. C'est là, dans ce lieu inadapté, et à quelqu'un qui ne semble pas être taillé dans l'étoffe des héros, que le messager du Seigneur entre en scène. C'est le sous-point suivant. Ce n'est pas un messager du Seigneur ou un ange de l'Éternel, mais c'est le messager du Seigneur ou l'ange de l'Éternel. Un examen rapide de notre texte montre que c'est Dieu lui-même qui se manifeste ici à Gédéon sous la forme de ce messager. En effet, quand nous regardons le passage dans son ensemble, alors je vous ai simplement mis les versets, nous constatons qu'à quatre reprises, il est question du messager du Seigneur. Verset 11, 12 et deux fois au verset 21. Ça, c'est à quatre reprises. À une reprise, je vais avoir mal au pouce à la fin du... Ça ne veut pas. Si je vous fais un signe, vous arrivez à le passer manuellement ou pas? Donc, à une reprise dans le texte, il est question du messager de Dieu. Et on peut passer la diapo suivante. Et à quatre autres reprises, il est question tout simplement du Seigneur, c'est-à-dire de Yahvé. Quand j'ai mis Seigneur en majuscule comme ça, c'est dans le texte hébreu Yahvé, ou l'Éternel, souvent traduit dans les traductions plus anciennes. Le messager de Yahvé, le messager de l'Éternel, du Seigneur avec un grand S, et puis à quatre reprises, donc, versets 14, 16, 22 et 23, c'est le Seigneur tout court. Et donc nous comprenons, nous constatons que le texte passe sans autre de l'un à l'autre. Et il est évident, quand nous avons fait ce constat-là, que les deux personnes, le messager du Seigneur et le Seigneur, ne font en réalité qu'une seule et même personne. Et ce constat, nous ne le faisons pas qu'ici, nous le faisons dans chacun des textes de l'Ancien Testament où nous retrouvons ce personnage mystérieux, ce messager du Seigneur, cet ange de l'Éternel. À chaque fois, dans le texte, on passe de l'un à l'autre. Alors, que faut-il comprendre? Il faut comprendre que c'est Dieu lui-même qui se présente à Gédéon sous la forme de ce messager du Seigneur. L'identification entre ce messager et Dieu lui-même est totale. L'ange de l'Éternel ou le messager du Seigneur, c'est Dieu en personne. C'est incarnation de Dieu, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. C'est incarnation de Dieu dans l'Ancien Testament, a amené beaucoup de théologiens à voir dans cette incarnation qui est temporaire et partielle, elle ne dure qu'un temps, une pré-incarnation de la deuxième personne de la Trinité, qui ne s'appelle pas encore Jésus, mais qui s'appellera Jésus dans l'Ancien Testament. Et donc, c'est bien cette deuxième personne de la Trinité, Jésus, si vous voulez, qui est à l'œuvre dans l'Ancien Testament, sous les traits du messager du Seigneur. C'est donc Dieu lui-même qui vient à la rencontre de Gédéon. Et que lui dit, on passe la diapo suivante, verset 12, « Le messager du Seigneur lui apparut et lui dit, « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » Vaillant guerrier. En voilà des paroles surprenantes, à mon sens. adressé à quelqu'un qui semble vivre dans la crainte et qui est, semble-t-il, en train de se cacher. Et à ce moment-là, Gédéon est, selon moi, tout sauf un héros, tout sauf un vaillant guerrier. Mais pourquoi le messager du Seigneur lui dit-il cela ? Alors certains commentateurs pensent que ce titre reflète une activité militaire déjà existante de Gédéon, qui déjà, un peu comme la résistance le ferait ou l'a fait, combattrait les Madianites comme il peut. Ce serait donc une parole qui dit la vérité du moment. Il est un vaillant héros, même s'il se cache. Il est déjà un vaillant héros. Ou guerrier. Et puis d'autres pensent, et j'en fais partie, qu'il s'agit ici plutôt d'une parole prophétique, c'est-à-dire d'une parole qui dit ou qui anticipe ce que Gédéon va devenir. Ce qu'il va devenir, car Dieu est avec lui. Parce que c'est bien là le sens de toute la salutation, le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. Il est fort probable que l'auteur du livre des Juges ait voulu ici que ses lecteurs fassent le parallèle avec Moïse et avec le peuple d'Israël qui, à l'époque de Moïse, vivait aussi une grande détresse. Moïse, vous le savez, qui était en exil, fugitif, qui n'en menait pas large, peut-être un peu comme Gédéon, et que Dieu appelle néanmoins, aussi par l'intermédiaire du messager du Seigneur, à être le libérateur de son peuple. Et devant les réticences de Moïse, que lui dit ce messager du Seigneur ? On passe à la diapo suivante. Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je pour aller auprès du Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites ?» Et on verra la prochaine fois les réticences de Gédéon. On commencera ce matin, mais on les finira la semaine prochaine, enfin dans 15 jours, pardon. Et Dieu dit, après que Moïse ait dit « Qui suis-je ?», Dieu dit « Je serai avec toi ». Et cela m'amène ici à une première leçon que je formulerai ainsi. Il y a ce que nous sommes et il y a ce que nous devenons parce que le Seigneur est avec nous. Dieu ne nous appelle pas à servir parce que nous avons déjà tout ce qu'il faut pour cela. Alors bien sûr, il nous prépare et il nous prépare à l'avance. Il nous a préparés, il nous prépare et il continuera à le faire pour que nous puissions le servir. Mais la réalité, c'est que Dieu nous appelle tels que nous sommes. Et puis, il continue à nous transformer et à nous rendre capables d'accomplir sa volonté. Et nous y arrivons, tant bien que mal, mais nous y arrivons, parce qu'il est avec nous. Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. Oui, le Seigneur est avec nous. Et Jésus dira à ses disciples, avant de les quitter, qu'il sera avec eux tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et on peut se souvenir, et on peut projeter la diapo suivante, la fin de cet évangile de Matthieu, Jésus s'approcha et leur dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Oui, Jésus est avec nous tous les jours, tous les jours. Et c'est la raison qui fait que nous pouvons accomplir la mission qu'il nous a laissée. Faire des disciples, des gens de toutes les nations, les baptiser, les enseigner, être les témoins du Christ et de ce qu'il a fait dans notre vie. Nous pouvons faire cela parce que Jésus est avec nous tous les jours. On peut passer à la diapo suivante. Et nous pouvons le faire parce que celui qui est avec nous, tous les jours, a reçu toute autorité, tout pouvoir on pourrait aussi traduire. Toute autorité de son Père dans le ciel et sur la terre. C'est donc parce que Jésus est avec nous et parce qu'il est tout puissant, il a reçu toute autorité, parce qu'il est tout puissant, que nous pouvons servir efficacement. Ce n'est pas que nous soyons amplement suffisants et seulement suffisants par nous-mêmes, mais parce qu'il est avec nous et qu'il est tout-puissant, nous allons pouvoir accomplir sa volonté et l'accomplir efficacement, parce qu'il va œuvrer au travers de nous. Dieu voit bien au-delà de ce que nous sommes. Il voit toujours ce que nous pouvons devenir par sa présence, par sa grâce, par son action dans nos vies. Nous, nous voyons nos défauts. Nous, nous voyons nos manquements. Il ne s'agit pas de dire qu'ils ne sont pas là. Ils sont là. Mais Dieu voit le potentiel des vies qui sont consacrées à son service. Quel encouragement pour chacun de nous à nous lever et à servir tel que nous sommes, en faisant confiance à Dieu qui nous accompagnera, qui nous formera, qui se servira de nous, qui bénira l'ouvrage de nos mains. Oui, il y a ce que nous sommes. Et puis il y a ce que nous devenons, ce que nous faisons, parce que le Seigneur est avec nous. On passe à la diapo suivante, on revient à notre texte. Comment Gédéon réagit-il aux paroles du messager du Seigneur ? C'est le sous-point suivant, la réponse de Gédéon. Pour l'instant, Gédéon n'a pas encore compris que c'est Dieu qui est là, présent, devant lui. Verset 13, Gédéon lui dit « Pardon, mon Seigneur, petit s », ce n'est pas le même mot, « mais si le Seigneur, grand S, est avec nous, pourquoi tout cela nous arrive-t-il ? Où sont tous les actes étonnants que nos pères nous racontent quand ils disent « Le Seigneur ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte ?» Maintenant, le Seigneur nous a délaissés, il nous a livrés à Madian. Que traduisent les paroles de Gédéon ? Certains y voient de l'incrédulité. Certains y voient du découragement. Personnellement, j'y vois une certaine lucidité et aussi de la foi. Mais de la foi à laquelle il manque la bonne compréhension des choses. Je vais m'expliquer. À l'évidence, Gédéon croit en la souveraineté de Dieu. Il croit que Dieu a fait des actes étonnants pour son peuple en le délivrant de l'Égypte. Mais il croit surtout, dans les circonstances du moment, que la situation désespérée du peuple, du moment donc, est due à l'abandon de Dieu. Dieu aurait abandonné son peuple. Maintenant, dit-il, le Seigneur nous a délaissés, il nous a livrés à Madian. Gédéon n'a pas les bonnes lunettes. Gédéon ne fait pas la bonne lecture des circonstances de sa vie. Il n'a pas fait le lien entre la situation présente, les avertissements de Dieu et la désobéissance du peuple. Il me fait penser à ces gens qui affirment « Si Dieu est bon, pourquoi la guerre ? Pourquoi la souffrance ? Pourquoi la misère ? Pourquoi l'injustice, etc. » Ces gens qui rendent Dieu responsable du péché de l'homme et de ses conséquences, ces gens qui pensent que les événements mauvais de ce monde expliquent que Dieu s'est complètement désintéressé et qu'il n'est pas bon comme on pourrait le penser. Ces gens qui ne comprennent pas la réalité du péché et celle aussi de la sainteté de Dieu. Et Gédéon, d'une certaine manière, me semble être dans le même brouillard. C'est pourquoi il s'interroge comme il le fait, et il arrive à la conclusion que si tout cela arrive, c'est parce que Dieu les a abandonnés. Que tout ce qu'il peut voir autour de lui en est la preuve. Les Madianites, la famine, la détresse, Dieu les a abandonnés. Et cela m'amène à une deuxième leçon ou une réflexion que je formulerai ainsi. La compréhension du péché et de ses conséquences est la clé de la bonne compréhension du monde, de notre monde et de beaucoup des circonstances de notre vie. Si vous enlevez de l'équation de la compréhension du monde, la chute de l'homme, si vous enlevez les trois premiers chapitres de la Bible, il y a bien des choses qu'on ne comprend pas ou qu'on ne comprend pas vraiment. Si vous enlevez donc la chute de l'homme, si vous enlevez sa nature pécheresse, si vous enlevez le péché dans toutes ses manifestations, vous ne pouvez pas véritablement comprendre le monde dans lequel nous vivons. Et tout ce qui s'y passe, quoi qu'en disent par ailleurs tous les experts de tous bords. Oui, nos plateaux télé, tous nos médias sont remplis d'experts en tout genre, de philosophes, de sociologues, et j'en passe, toutes sortes de journalistes qui cherchent à nous expliquer le monde, souvent avec un savoir indéniable. Mais il manque à tout leur raisonnement cette clé de lecture. C'est pourquoi leurs raisonnements experts sont souvent au mieux incomplets. Leur vision du monde est finalement fausse parce qu'ils ont évacué Dieu de leur compréhension du monde, du tableau, de l'équation, de leur raisonnement. Leur sagesse, pour faire écho au début de la lettre aux Corinthiens, est de la folie. Ou alors, comme le dit l'apôtre Paul au début des Romains, en parlant du rejet de Dieu par l'homme, et on peut passer la diapo suivante, vous arrivez ? Oui, merci. Ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence, pas l'intelligence du savoir, mais l'intelligence de connaître Dieu, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Alors bien sûr, tous les raisonnements humains ne sont pas des égarements. Loin de moi de suggérer cela. Mais sans la lumière de la parole divine, l'être humain ne peut pas véritablement comprendre le monde dans lequel il vit. Il ne peut pas véritablement comprendre que le cœur humain est tortueux par-dessus tout. Il ne peut pas comprendre que sans Dieu, qui est le seul qui peut changer les cœurs, toutes les solutions que l'on met en œuvre sont vouées à l'échec. Il me semble qu'il manque souvent à l'être humain cette bonne clé de lecture qui se trouve dans la parole de Dieu. Une parole qui nous dit l'amour de Dieu pour les humains qu'il a créés. Une parole qui nous montre comment la désobéissance de l'homme avec un grand H a tout gâché en faisant entrer le péché et son cortège de conséquences dans le monde. Une parole qui affirme que le péché de l'homme est une offense à Dieu et qu'il le place sous la condamnation de Dieu. Une parole qui nous dit que Jésus a pris sur lui cette condamnation-là, notre condamnation, en mourant sur la croix, en faisant le don de sa vie, afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu par le sacrifice de son Fils. Oui, nous avons besoin de la parole de Dieu pour bien comprendre notre monde, notre vie. Et c'est ce qui me semble manquer ici à Gédéon, qui se rappelle bien les exploits du passé, mais qui a oublié les avertissements de Dieu au sujet de l'idolâtrie. Avertissements qui lui auraient fait comprendre que ce n'est pas Dieu qui a abandonné son peuple, mais c'est son peuple qui l'a abandonné lui. parce qu'Israël s'est tourné vers les idoles. Dieu les a livrés aux mains de leurs ennemis comme il l'avait annoncé. C'est donc Israël qui est responsable de cela, en ayant choisi de tourner le dos à Dieu. Nous devons toujours faire attention à ne pas tomber dans cette ornière qui consiste à rendre Dieu responsable du péché et de toutes ses conséquences. On passe à la diapo suivante, s'il vous plaît. C'est la réponse maintenant de Dieu. C'est le quatrième et le dernier sous-point. Je vais donc terminer avec cela. C'est la réponse donc du messager de Dieu à Gédéon. Et nous lisons au verset 14, « Le Seigneur se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as, tu sauveras Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Nous constatons que la réponse de Dieu est dans la continuité de la première parole qui a été adressée à Gédéon, qui lui laissait déjà entrevoir la victoire quand il disait « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier ». Oui, parce que le Seigneur est avec lui, parce qu'il l'envoie. Gédéon va devenir un vaillant guerrier. Gédéon va sauver Israël des Madianites. Gédéon peut avancer avec la force qu'il a. Pas la force qu'il aura, mais avec la force qu'il a. Et je vois là un puissant encouragement pour chacun de nous qui désirons servir le Seigneur. Dieu n'attend pas de nous que nous ayons tous un doctorat en service pour le Seigneur, pour se servir de nous. J'ai rien contre les doctorats, rien du tout, et encore moins contre la formation pour servir le Seigneur qui est indispensable. Mais la réalité, c'est que Dieu attend de nous que nous nous engagions tels que nous sommes, avec nos compétences du moment qu'il saura faire fructifier et dont il saura se servir pour accomplir sa volonté. Oui, la formation est importante, sous une forme ou sous une autre, dans l'Église, en dehors de l'Église. Mais cette formation ne sert à rien, je dis bien à rien, si je ne commence pas par me lever et si je ne commence pas par m'engager tel que je suis. Avec la force que j'ai, avec les compétences du moment qui seront toutes suffisantes dans les mains de Dieu. Le peu que nous avons, et quand on se regarde avec un peu de sérieux, on se rend compte que ce n'est vraiment pas grand-chose. En tout cas, je parle pour moi. Le peu que nous avons est néanmoins toujours suffisant dans les mains de Dieu. Est-ce que nous en sommes convaincus? Les pierres et la fronde de David contre Goliath nous le rappellent. Les pains et les poissons de ce petit jeune homme dans les évangiles aussi. Le peu que nous avons est toujours suffisant dans les mains de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons aller avec la force que nous avons, en étant assurés par la présence de Dieu dans nos vies, que Dieu nous rendra capables d'accomplir ce qu'il attend de nous. Nous verrons la prochaine fois que ce dialogue entre le messager du Seigneur, c'est-à-dire Dieu lui-même et Gédéon, n'est pas encore terminé. Et Gédéon n'est pas encore tout à fait convaincu. Certainement que ça commence à bouger en lui, mais il n'est pas tout à fait convaincu et la suite du récit va le montrer. Alors, ce n'est pas encore la demande, la fameuse toison. On connaît Gédéon pour cette toison qu'il va poser, etc. Mais n'empêche qu'il va déjà, à ce stade, demander un signe à Dieu. Alors, que va faire Dieu? Eh bien, soit vous le lisez cette semaine, soit vous attendez 15 jours pour avoir la réponse. En tout cas, je termine en soulignant qu'une des questions que nous renvoie la méditation de ce matin, et j'aimerais vous la laisser pour terminer. Une des questions, ce n'est pas la seule, est celle-ci. Suis-je prêt à répondre à l'appel du service que Dieu adresse à chacun de ses enfants maintenant avec la force que j'ai aujourd'hui? Suis-je prêt à cela? Je vous invite à prendre quelques instants de silence. Merci notre Dieu, notre Père, parce que tu n'attends pas de nous la perfection, tu attends de nous la confiance, tu attends de nous que nous disposions notre cœur à te servir. Merci parce que tu nous appelles à cela et merci parce que par ta grâce nous pouvons y répondre. Peut-être que nous avons répondu il y a longtemps. Nous avons avancé avec la force qui était la nôtre et nous avons besoin de le refaire ce matin. Merci parce que c'est un engagement sans cesse, toujours renouvelé, que tu attends de nous. Merci pour ta grâce qui supplée à tous nos manquements. Merci pour ta parole qui nous fait comprendre les choses telles que toi tu les vois, telles qu'elles sont vraiment. Accorde-nous de toujours y plonger nos regards. Accorde-nous aussi d'être là où tu nous places, aujourd'hui et tout au long de la semaine, les témoins de ton amour, avec cette force que nous avons. Accorde-nous la grâce de pouvoir témoigner de tout ce que tu as fait pour nous, dans le nom de Jésus. Amen.